déjà, ça, le titre, c'est l'esthétique de l'étrange. Déjà, il y a le coup du brigadier. Tout de suite, ça met dans l'ambiance. Alors, est-ce qu'il y a une esthétique de l'étrange ? On va prendre pour le plus esthète. Hein. Avec la mémoire de riz de Jean-Marie Blas de Robles. Avec un nom comme ça, déjà, tu vas être toute une esthétique, déjà.
Ça n'est peut-être que de la préciosité. Mais je ne sais pas s'il y a une esthétique de l'étrange. Je voyais en m'asseyant là, le recueil de nouvelles de Jean Rey, les derniers contes de Canterbury. Je crois que ça pourrait servir de départ pour lancer le débat. Et je disais à mon camarade là que j'avais lu ce livre au moins une dizaine de fois adolescent et puis plus tard également, à cause justement, peut-être pas d'une esthétique de l'étrange, mais d'une ambiance de l'étrange. Il y a chez Jean Rey, dans les contes du whisky aussi, par exemple, quelque chose qui m'a toujours fasciné, à savoir cette distorsion qui existe chez lui, mais comme chez d'autres, comme chez Edgar Poe, par exemple, ou même dans les petits poèmes en prose de Baudelaire, pour rester dans ce qu'il est convenu d'appeler la littérature classique, une distorsion entre une narration au premier degré du réel et un passage, un chemin au sentier qui bifurque, qui est un moment toujours, là c'est très symbolique, très symptomatique, c'est souvent dans des ruelles, et puis vous passez comme ça, vous êtes dans une ruelle comme dans le vieux Saint-Malo, donc il y a déjà une espèce d'ambiance un peu oppressante, mais ça ne pourrait être que le Saint-Malo ou que le Londres que vous connaissez. Et d'un seul coup, là où il n'y avait rien, il y a quelque chose. Il y a une petite porte qui s'ouvre, il y a une petite ruelle.
C'est la ruelle ténébreuse, c'est ça ?
La ruelle ténébreuse qui s'en trouve et qui ouvre sur un monde de l'imaginaire. Je crois que c'est peut-être par là qu'on devrait commencer sur ces ouvertures inattendues qui surviennent à l'intérieur d'une narration, je dirais, classique.
Mais c'est vrai que bon, moi je me promenais très souvent sur Gange, j'ai fait plusieurs émissions sur Jean Rey pour parler de ça, et cette ruelle ténébreuse, il racontait absolument qu'il l'avait, il était entré dans cette ruelle ténébreuse qui se situait pas loin du château des Comtes. Mais il faut dire aussi que Bruges, Gand, d'ailleurs sans son Londres, c'est plus Gand que... Et c'est une ville magique. Hein. Là, il y a vraiment l'esprit des lieux. Là, le Genius Loci est là. Hein. C'est vraiment... Je me souviens d'être promené près des canaux, comme ça, toujours un peu... Avec une eau un peu noirâtre, et en automne. Et une fois, il y avait une petite ruelle, pas loin du musée de folklore. Je ne sais pas si tu connais... Et j'entends une espèce de grand bruissement, et c'était vraiment du genre Rey, quoi, parce que une espèce de grand drap de s'était détaché d'un échafaudage et volé comme ça dans la ruelle. C'était extraordinaire, et donc il n'y avait rien, il y avait simplement un grand drap qui s'envolait dans la ruelle, mais c'était un fantôme, c'était tout ce qu'on veut, il se passait réellement quelque chose, quoi. Et bon, j'ai lu déjà, et c'est ça aussi qui m'a frappé là, dans l'histoire de magicien, avec ces tours de magie en fait, qui tuent réellement les pigeons. Et c'est vrai que je crois que tu as dû t'amuser à écrire ça, non?
C'est la moindre des choses, ouais. si on ne s'amuse pas un petit peu en écrivant, même si on souffre beaucoup, tout le monde le sait, mais ce n'est pas la peine de le faire. Oui, je me suis amusé, mais en même temps, ce sont des histoires que je me raconte à moi-même d'abord, et je disais dans une autre intervention que j'aime à me surprendre moi-même quand j'écris, pour rester dans le thème de l'étrange. Donc j'aime la percussion de choses qui n'ont rien à voir ensemble, dont je sais qu'elles produisent des monstres. Elles produisent donc des fantômes, elles produisent de l'anormal, elles produisent de l'étrange, elles produisent du pathologique, des choses qui sont en dehors de la norme. Et ça, c'est une de mes fascinations, parce que c'est dans cette anormalité qui produit l'étrange et qui, à mon avis, produit le fantastique, même si je ne me considère pas du tout comme un écrivain fantastique, mais qui produit la poésie de cela qui surprend parce que c'est du tout autre, c'est du complètement différent, des choses que nous ne sommes pas armés pour comprendre. Et donc, qui donnent l'impression, en tout cas, d'être détentrices, sinon d'une vérité, d'un sens, hein, d'un sens qui serait caché et qu'il nous faudrait décrypter.
Mais les personnages sont de toute façon un peu monstrueux à chaque fois. Là, c'est d'autant on peut les rencontrer dans la rue, quoi.
Mais vous me tendez la perche, là, moi, mais j'ai horreur de l'autobiographie, de l'autofiction, de ces choses-là. Donc, moi, je vois pas l'intérêt de me raconter moi-même. Donc, je suis vraiment dans la fiction, dans l'invention, dans l'artificialité, la manipulation, d'où l'illusionniste, le prestidigitateur, pour produire l'illusion d'un réel et jouer avec ça. Et mon image, elle est plutôt iconographique, c'est-à-dire que lorsque je dois mettre au point un personnage, je me sens comme un peintre qui doit peindre, je sais pas, une tentation de Saint-Antoine. Saint-Antoine, vous pouvez prendre votre grand-père, ou je sais pas quoi, c'est Saint-Antoine avec une belle barbe et tout. Mais les monstres qui vont l'assaillir, vous avez beau creuser votre imaginaire, vous ne pouvez pas inventer des monstres, vous les fabriquez. Et vous les fabriquez à partir d'une infinité de petites choses connues. Vous allez prendre, je ne sais pas, les serres d'un aigle, les plumes de je ne sais quoi, vous allez mélanger différents animaux, tel bec, telle couleur, et vous arrivez à une totalité qui est monstrueuse et qui est plus que la somme de ses parties. Et mes personnages, je les construis de la même façon, avec le crâne de quelqu'un qui m'est resté en souvenir, tel regard, tel habillement, etc. C'est une espèce de mosaïque dont le rassemblement crée une réalité.
Et même l'écriture, hein, parce que on parlait de se promener, de promener le lecteur aussi, là, parce que quand on commence l'histoire, on ne sait pas trop où ça va. Et on a l'impression d'être emmené à droite, on dit tiens, ça va être ça, et puis non, on retourne sur des propos quelquefois qui n'ont, semble-t-il, rien à voir avec l'histoire. Il y a des réflexions, il y a une esthétique, effectivement, et puis, brac, brusquement, la trappe s'ouvre sous les pieds, il y a cette chute, c'est le cas de le dire. Mais là, on a l'impression qu'il y a quand même du tricot là-dedans, ou du point de croix, quelque chose d'un peu machiavélique.
Oui, moi je préfère plutôt que l'image du tricot, l'image du prestidigitateur, de la manipulation, ouais, ou de la machinerie, de l'horlogerie qui fait que tout s'enclenche pour produire un résultat précis. Et dans mon esprit, ça fonctionne aussi bien pour des textes traditionnellement fonctionnant selon ces machineries comme les nouvelles, mais aussi pour le roman. Je n'écris pas mes romans autrement qu'en construisant d'abord des machineries extrêmement précises pour aider le lecteur, c'est-à-dire que pour que l'histoire que je veux raconter, pour que la fable que je veux conter puisse fonctionner, c'est-à-dire puisse vous emmener ici, puis là, pour qu'à la fin vous soyez juste bien, bien mûr pour prendre la gifle que vous devez recevoir à la fin, il faut vraiment toute une préparation qui est de la cuisine narrative, qui est une espèce de compétence artisanale qui, heureusement, arrive comme ça après des milliers et des milliers de lectures. Je crois que ça, c'est la magie de cette imprégnation de tous les livres qu'on a aimés et qu'on a relus, qui fait que, volontairement ou involontairement, on a envie de recréer ces machineries qui nous ont emportés durant telle ou telle lecture.
Alors, Christophe Langlois, là, c'est Boire la tasse, un premier prix, un beau prix, quand même, c'est le prix de...
Le Grand Prix de l'Imaginaire.
Ah, ouais. Bravo. Alors donc, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à Boire la tasse. J'avoue que j'ai lu ça dans le train, je me suis bien amusé, j'ai beaucoup... je rigolais tout seul, et les gens avaient l'air un peu bizarres, regardaient d'un sale œil. Mais c'est vrai, donc, qu'il y a une référence, on a dit, bon, que tu... qu'il y avait du Roald Dahl derrière, mais enfin, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être du Roald Dahl dans l'esprit, mais c'est beaucoup plus ramassé, c'est beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger, je trouve, ton recueil de nouvelles. Alors, tu écris comment et comment... Toi, ton esthétique, alors, justement, Boire la tasse, c'est joli, parce qu'on dit que tu... aussi, que tu aimes beaucoup le jardin anglais, hein, quand on sait que quand le jardin anglais... on le croit bien sauvage en même temps, un petit peu comme tes textes, là, on a l'impression qu'il est un peu sauvage et tout, et en même temps, il y a quelqu'un derrière qui va couper à droite à gauche et qui va complètement fabriquer ce côté sauvage.
On a parlé tout à l'heure du jardin au sentier qui bifurque. En préparant cette intervention, je marchais sur les remparts de la ville et je me demandais ce qui était vraiment étrange. Et pour tout vous dire, dans la mémoire de Ri, par exemple, j'ai beaucoup aimé la loi Cioran, voilà, qui nous obligerait à ne déposer chez l'imprimeur, chez l'éditeur, que des livres pour lesquels nous serions prêts à donner notre vie. Ce qui, évidemment, permettrait de diminuer d'un seul coup le nombre excessif de publications. Et je trouvais ça une très belle solution pour la Bibliothèque nationale de France, notamment, qui souffre toujours d'un manque de place chronique. Alors j'ai travaillé à la Bibliothèque nationale, en fait, pendant 10 années. Donc le quotidien était fantastique en lui-même, puisque je me trouvais dans la pléthore de publications. Et cet infini peut être décourageant, d'ailleurs, pour l'écriture. Alors pour revenir à la question de l'étrange, je me suis demandé par quel bout prendre une telle question. Et en fait, s'il y a peut-être un fil rouge entre les 15 nouvelles du recueil, ce serait la question suivante, c'est... Est-ce que, dans cette ère où nous sommes, où la technologie a pris une place prépondérante, où elle nous utilise presque plus que nous l'utilisons, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes devenus anachroniques dans nos existences quelque peu préhistoriques encore? Et c'est ce regard, ce décalé, en fait, qui m'occupe depuis longtemps. Beaucoup de nouvelles ont à leur origine, en fait, une scène de la vie quotidienne, un dîner entre amis, où tout à coup, vous savez, vos yeux se perdent un peu dans le vague, et vous vous demandez un peu ce que vous faites là, et d'un seul coup, quelque chose vous apparaît, c'est fugitif, et ça suffit à basculer légèrement. Alors, il ne s'agit pas juste de fantaisie pour la fantaisie, c'est ce que je voulais aussi dire par rapport à la loi Cioran. Évidemment, dans tout livre, il y a une aventure personnelle, il faut une nécessité qui y préside. Les nouvelles du recueil Boire la tasse, pour certaines, ont 10 ans et ont été reprises longuement. En fait. Et la nécessité qui y préside, c'est précisément ce décalé entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Enfin, il me semble, je pense être assez idéaliste, les jardins anglais correspondent à ça, certainement. Donc, moi, je me prends en permanence, enfin, je ne sais pas pour vous, mais la gifle, la baffe de ce que nous devrions être et de ce que nous ne sommes pas, de ce que le monde est et de ce qu'il devrait être. Voilà, donc en fait, les nouvelles voyagent entre ces impressions.
Ce sont des nouvelles et en même temps, ce sont des contes. Il y a le côté intemporel, parce qu'on passe quelquefois presque de la science-fiction. On ne sait pas trop quand ça se passe, si c'est réellement aujourd'hui ou si c'est demain, mais les thèmes, on retrouve aussi quelques thèmes qu'on peut retrouver dans les contes dits de fées, Dans les contes traditionnels, les contes, il y a quand même une espèce de petit récit initiatique derrière, sous-jacent. Oui.
Dans Le Grand Silence, par exemple, qui essaye de, enfin, qui prend appui sur une situation, la situation suivante, le silence serait interdit. Nous serions obligés de communiquer, en fait, en permanence. L'idée, de départ, c'était d'arriver à décrire ce qu'est la vie religieuse, la vie conventuelle, une vie authentiquement vécue, je veux dire, mais sans les mots de la para religieuse. Pareillement, la visite est un petit conte initiatique, effectivement. C'est suite à une visite à Madrid. Nous nous sommes retrouvés devant le Convento de las Casas Reales, donc les couvents de Carmes Deschaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce couvent étrange. Il est au cœur de Madrid, pourtant. Il devrait être indiqué sur les cartes, les circuits touristiques. Et il est complètement à part. Il est où? Il a des horaires de piscine. Hein, il est ouvert de 10h17 à 11h22, le troisième vendredi du mois. Enfin, voilà, il faut vraiment le trouver. Une fois que vous y êtes, il faut arriver une demi-heure avant. Le guichet s'ouvre. Vous avez 10 minutes pour rentrer. Après, tout se referme. Et on a eu la chance de se retrouver dans le groupe de touristes avec ma femme. Et on s'est retrouvé devant un guide avec une tête énorme et qui s'est mis à éructer dans un langage qu'aucun ne comprenait. Alors, ma femme comprend l'espagnol, donc elle a quand même murmuré à la visiteuse à côté d'elle « Qu'est-ce que c'est comme langue ?» Elle a dit « C'est certainement tout sauf de l'espagnol. » Et progressivement, il nous a emmenés dans ce couvent en parlant très très fort. Et on a vraiment basculé, voilà. Et c'est une scène du quotidien, j'ai juste tiré un peu pour aller plus loin.
Voilà. C'est l'absurdité, voilà. C'est vrai qu'on vit l'absurdité tous les jours, hein. C'est vrai que...
Oui, c'était un peu le désir aussi, on parlait de l'humour, il me semble que c'est la seule façon de le tirer, voilà, la vie est cocasse, effectivement, et les micro-scènes de la vie quotidienne contiennent tout, si on veut bien y regarder de près. Je trouve que la nouvelle est le moyen de les enserrer voilà, comme un bijou.
Oui, c'est vrai que la nouvelle, il y a toujours... C'est Daniel Boulanger qui écrivait, qui adorait les nouvelles plus que le roman, et qui... Je parlais de tricot, tu vois, tout à l'heure, parce que je faisais un petit peu référence à Daniel Boulanger, qui me disait c'est très bon, tel plat, etc. Mais je préférais toujours la langouste. Et aussi, quand j'écris, je cisèle, je tricote, je brode. Et c'est vrai que c'est très, très écrit en même temps. Et je crois quand même l'écriture, c'est. Enfin, le style, on pense à Wismans, par exemple, c'est lorsqu'il commence à délirer, on est notamment dans là-bas, c'est parce que son écriture amène complètement l'atmosphère, comme toi, avec toi, il y a vraiment une recherche vraiment esthétique de la langue, jusqu'à ce qu'elle devienne fantastique. Quoi.
Je suis heureux que vous parliez de Wismans, parce que l'atmosphère, notamment à Rebours, oui. Cette langue très particulière. Ce qui m'a aussi fait aimer L'Arbre Vengeur, c'est sa republication de Léon Blois et de ses histoires désobligeantes, qui portent des titres de nouvelles aussi délicieux que Le Parloir des Tarentules, ce qui en dit long sur l'univers qu'il habitait. Et L'Arbre Vengeur a le courage de republier ce genre de texte, de les remettre au goût du jour.
Mais là, justement, on a l'impression, après on vient à toi, mais là, encore une dernière chose, on a l'impression que c'est écrit tout haut, par moment, c'est écrit, mais en récitant ce que tu es en train d'écrire, ça t'arrive pas
Là, manifestement, on parle de Wismans, qui est un de mes petits chéris, aussi, et on le voit aussi pour le style. Alors c'est vrai que je préfère... De Wismans, de Harrebourg ou de là-bas à celui de la cathédrale, une fois qu'il a viré sa cutie dans la religion. Mais même dans les foules de Lourdes, par exemple, qui ne m'intéressent strictement pas, la langue arrive à un tel tumulte, c'est toujours la même, une telle préciosité. telle, comment dire, extravagance que j'arrive à relire ce texte régulièrement, uniquement pour me laisser emporter
par la musique,
par la fantaisie de la langue, sans plus y chercher de questionnement ou de délectation esthétique de quelque ordre que ce soit. Et sinon, pour répondre à votre question, certes, Huysmans, ça c'était à l'époque des nouvelles, j'ai grandi depuis, même si ça reste un de mes phares, mais il y a Flaubert, il y a toujours Flaubert derrière, et cette exigence sur le travail de la langue, et donc aussi le gueulois. Moi, je lis à haute voix, j'écris à haute voix tous mes textes pour vérifier la musicalité de la phrase, pour vérifier, y compris la syntaxe. Je suis toujours en train de rhapsodier les textes, même les plus écrits, pour les vérifier à la langue.
Ah oui, ça se sent tout à fait.
Alors, faire passer le test du gueuloir, comme disait Flaubert.
Oui. Alors Fabrice Bourland, là c'est le Serpent de Feu, il y avait déjà eu le Fantôme de Baker Street.
C'est le cinquième en fait. Oui.
C'est le cinquième. Moi j'ai lu le Fantôme de Baker Street et celui-là j'ai commencé. Alors là c'est différent avec toi, on sent vraiment...
Bon, différent, mais pas tant que ça, parce que moi je partage toutes les références qui viennent d'être éditées, toutes les affinités. J'écoute ça avec attention et je trouve justement plein de
tu te vois. Et donc en fait, bon, là c'est parce que il y a une gourmandise. Hein. Aussi, c'est que qu'est-ce qu'on se sent bien dans ton univers, quoi. Hein, c'est vrai que là, on n'ouvre pas. Oui, là vous êtes des malsains. Oui, il est sainement malsain. Mais j'aime bien aussi que vous soyez malsains. Le sujet de parler de Huysmans, c'est un petit peu à cause de ça aussi. Non, c'est-à-dire que là, en deux, trois pages, tout de suite, il y a les gaslines qui s'allument, le brouillard arrive, on te suit carrément, et avec gourmandise justement dans ces rues de Whitechapel, d'une certaine Angleterre. Et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, ce bon... Et donc, tu nous y aides vraiment. Alors,
juste une précision, ce qui est drôle, c'est que le premier bouquin, Le Fantôme de Bécassé, c'est un roman que j'ai écrit de mon côté, à un moment où j'avais une période de creux de mon existence. J'écrivais beaucoup des nouvelles précédemment, des nouvelles fantastiques, et je me suis dit, tu vas écrire le roman que tu as envie d'écrire. J'avais été à Londres une fois, pas plus que ça, et pourtant, je me suis lancé dans l'écriture d'un bouquin qui remettait en selle le Londres victorien. Alors même si ça se passe en 1932, en tout cas, c'est l'ambiance du Londres de Whitechapel, de Jack l'Éventreur, puisque le principe, c'est qu'effectivement, en 1932, mes deux détectives que j'invente, hein, qui sont originaux, qui font le voyage inverse de celui qu'on est censé faire à l'époque, c'est-à-dire eux, ce ne sont pas les Européens qui vont aux États-Unis, ce sont un Canadien et un Américain qui en ont marre du mode de vie à l'américaine et qui vont partir sur le vieux continent parce qu'ils sont amoureux de l'esthétique européenne fantastique. Il y en a un d'ailleurs qui voudrait aller à Paris parce que c'est un admirateur des Pierre Rimbaud et de son cheval du pain, et l'autre qui voudrait aller à Londres parce que c'est un amateur de Sherlock Holmes. Au bout du compte, il décide d'aller à Londres. Et donc j'ai réinventé ce Londres fantasmatique tel que moi je l'ai aimé à travers mes lectures. Et j'ai reçu plein de courriers, d'avis, de gens qui disaient mais qu'est-ce que vous connaissez bien Londres, on s'y promène, on croirait y être. Et en fait, alors depuis, effectivement, j'ai travaillé un peu cet aspect topographique, mais à chaque fois qu'il y a une description d'un quartier que je dois faire pour un moment d'intrigue, je préfère toujours, quand il y a eu une description d'un auteur de l'époque qui a été faite, par exemple, Conan Doyle, normalement, fait une description d'un quartier de Whitechapel où il invente deux noms de rues qui n'existaient pas. Bon, bah, ces noms de rues, je les ai introduites parce que ce n'est pas le Londres réel qui m'intéresse, c'est le Londres des écrivains et le Londres que nous, lecteurs, nous avons à l'esprit. Ça peut être le Londres, ça peut être l'Autriche dans un autre ouvrage. Là, je travaille sur Los Angeles. Donc, c'est simplement la vision intérieure qu'on a de la ville.
C'est ce que disait un petit peu Macorlan aussi, qui disait bon, c'est peut-être pas la peine vraiment de voyager, mieux vaut rester dans les ports.
Et là, le voyage autour de ma chambre.
Voilà, oui, c'est ça, oui, c'est le... Non, non, continue, tu...
Et donc, en fait, voilà, donc, j'ai beaucoup baigné dans le fantastique. Moi, mon fantasme, quand j'avais 18 ans, c'était un personnage qu'on ne dit plus trop, mais c'était Théophile Gautier. Voilà, c'était Moi, je rêvais de pouvoir être en colocation dans quelque chose qui pouvait ressembler à l'impasse du Doyenné dans les années 30, dans les années 1830. Où dans un même appartement cohabitaient Titus Petrus Borel, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas au début de sa carrière, Théophile Gautier donc, un endroit qui était un peu une sorte de squat à l'époque, juste sous une aile du Louvre. Et moi j'étais fasciné par cette réunion de l'esprit de fantastiqueur, comme on disait à l'époque, et j'ai toujours essayé de rechercher ça dans mon écriture. Et en fait, cette série, donc, je vous disais tout à l'heure, c'est un manuscrit que j'avais écrit dans mon coin, que j'avais envoyé par la poste à un éditeur. L'éditeur a pris tout de suite en me disant « Vos personnages sont super, il faut en faire une série ». Donc, ce n'était pas prévu au départ, donc j'ai continué en retravaillant toujours cet esprit découverte d'un univers fantasmatique à travers des écrivains et des univers littéraires. Et pour le dernier, Le Serpent de Feu, c'est pour ça que tout à l'heure je discutais de... Saxe-René avec Fu Manchu, il y a extrêmement fait référence à Fu Manchu, au Chinatown de l'époque, puisque aujourd'hui à Londres, il y a un Chinatown qui ne se trouve pas du tout à l'endroit où il se trouvait à l'époque, qui était tout à côté de Whitechapel, près de l'île aux chiens, qui n'existe plus parce qu'il a été bombardé pendant le Blitz. Et voilà, donc j'ai essayé de retrouver dans celui-ci cet esprit, les fumeries d'opium, puisqu'en plus il y a question de sortie en astral, de voyage dans l'au-delà. Donc c'est tout cet univers, tout cet esprit-là. Et juste pour préciser en fait que je m'inscris, alors moi, c'est pour ça que le débat précédent avec Harry Dixon est aussi intéressant, je m'inscris moi ouvertement dans un sous-genre de la littérature policière, qui est celui des détectives de l'étrange, qui donc a été énormément mis en avant par les auteurs anglo-saxons, excepté Jean Rey, qui lui, dans les années 30, a repris le flambeau, mais des auteurs comme Algernon Blackwood, Saxe Romer, particulier, Arthur McKen, qui ont inventé des personnages de détectives qui mènent des enquêtes, mais qui les font pénétrer dans un univers qui les fait
basculer
dans l'irréel, le surnaturel, l'étrange, on peut mettre les adjectifs.
Les traversées du miroir.
Les traversées du miroir. Et ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là. C'est-à-dire, effectivement, on va être dans quelque chose qui peut nous... C'est la définition du fantastique, hein, quelque chose qui peut paraître quotidien, qui peut nous sembler... correspondre à notre vie de tous les jours. Et à un moment, on passe de l'autre côté. Ça peut se manifester par un détail, ça peut se décider par une situation, un crime, évidemment, dans une histoire policière. Et là, on passe de l'autre côté. Et moi, j'ai toujours un peu, comment dire, été agacé par les écrivains policiers qui mettaient toute une ambiance fantastique. Le fameux fantastique
expliqué. Par exemple. Ouais.
Alors, excepté dans sa chambre ardente. Mais sinon, on met un univers absolument fantastique. Conan Doyle avec le Charlie Lasker, il a joué un petit peu là-dessus. Et tout d'un coup, à la fin, patatras, on nous explique que le fantôme n'est pas du tout un fantôme, parce qu'en fait, la gouvernante avait mis un drap et qu'il se promenait dans les... Et ce côté fantastique, mais en même temps, on n'a pas trop... il faut vite revenir dans le connu, le réel, parce que sinon, on a l'impression de se perdre. Ça m'a toujours particulièrement agacé. Donc moi, je vais au bout du surnaturel, quitte à perdre un peu... à perdre pied, mais c'est le but.
Lui, il arrange ça tout à fait, parce qu'avec son magicien, contre il n'y a aucune explication, simplement il écrase ses pigeons, je trouve ça génial. C'est délicieusement méchant.
Non, mais juste une petite parenthèse pour cette histoire de pigeons, de torture.
On n'a pas à te justifier.
Mais pour montrer comment l'imaginaire peut rejoindre le réel à un autre niveau, en dehors de toute conscience. Quand j'ai écrit cette nouvelle, donc d'un illusionniste qui fait apparaître des pigeons, comme n'importe quel prestidigitateur, et les fait disparaître sur scène, mais bon, chaque fois, il a fait une petite mise en scène qui fait qu'il tue ces tourterelles, il les écrase, il leur coupe le cou, il les poignarde, en citant l'Ancien Testament. Donc il met en scène avec ces tourterelles des citations très cruelles de l'Ancien Testament. Et ensuite, bien sûr, il fait réapparaître ces tourterelles et tout le monde est content. Sauf que à la fin de la nouvelle, on s'aperçoit que ça n'était pas les mêmes tourterelles et qu'en fait, il a réellement tué les tourterelles sur scène et c'est celle qu'il est en train de manger avec son copain à la fin. Bon, voilà. Et ça, je l'avais inventé totalement en me laissant emporter par l'imagination de cet illusionniste. Jusqu'à apprendre, il y a 2 semaines, qu'à l'époque, dans la Londres victorienne, à l'époque du grand Houdini, etc., etc., les prestidigitateurs qui n'avaient pas encore inventé les trucs qui font que quand on prend une cage, on met une tourterelle dedans et puis on l'écrase, hop, elle a disparu. Donc c'était les cages qui s'écrasaient, mais ils avaient là ils faisaient apparaître ou disparaître des canaris. Le canari était réellement écrasé dans la cage. Et ils avaient des collections, ils avaient des centaines de canaris derrière dans leur loge. Ils n'avaient pas trouvé le moyen de le faire disparaître en le gardant vivant. Donc à chaque fois, j'ai réinventé du réel.
Mais j'ai pensé plusieurs fois à Léo Pérutz aussi en disant.
C'est pas un écrivain que je pratique, c'est lui après avoir écrit tout ça.
Alors, pour revenir donc là, de tes inspirations, comment c'est venu par contre cet univers? C'était un goût au départ, parce que tu parlais d'Algernon Blackwood, de tous ces auteurs. Donc, tout ça sont des auteurs aussi fantastiques. Tu as une attirance pour le fantastique tout de suite, quoi.
Enfin, bon, après, je sais pas. Je suis tombé dedans. Moi, j'ai commencé à lire assez tôt l'adolescence. Moi, j'ai une adolescence très torturée. Très solitaire, très voilà, le quotidien était extrêmement gris pour moi. Je ne me sentais pas à l'aise dans l'existence. Et pour moi, le fantastique, ça a été un exutoire. C'est-à-dire, tout d'un coup, lire des textes de gens pour qui d'ailleurs qui avaient un peu le même rapport au réel. C'est-à-dire, en général, quand on veut passer de l'autre côté, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tellement celui qu'on habite. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué et je suis toujours resté fidèle à ça. Hein. Jean-Luc Godard me disait que. Qui n'est pas un auteur fantastique, mais quelque part peut-être un peu, il disait jusqu'à 20 ans, on fait son panier, on remplit son panier, et puis après, on cuisine avec les ingrédients qu'on a mis dans son panier. Moi, je sais que les ingrédients, c'est cela, c'est-à-dire toute cette littérature fantastique-là. Et maintenant, bah, je travaille là-dessus. En plus, moi, je suis quelqu'un qui me documente beaucoup, qui lit beaucoup avant de me lancer. Bon, d'ailleurs, c'est extrêmement référentiel. Mes ouvrages sont très, très à tiroir avec. J'invente un éditeur, moi j'ai un faux avant-propos d'éditeur. Ce sont des ouvrages qui sont censés être traduits en anglais, donc je suis moi-même faussement le traducteur de mes propres ouvrages. J'ai aussi des fausses notes de bas de page qui renvoient souvent à des fausses identités, donc il y a des histoires à tiroir. On ne sait jamais qui est qui, et d'ailleurs en réalité je ne suis pas censé être l'auteur du bouquin, puisque c'est censé être mon narrateur, en gros Singleton, qui les écrit lui-même, qui est un écrivain poète, détective, et qui lui-même collecte des manuscrits rares, et qui est donc bibliophile, et qui est à la recherche de manuscrits authentiques sur les écrivains qui viennent. Et moi je m'intéresse au spirit pop. Étant très peu intéressé en fait par tu parlais d'autofiction, des écrivains qui se racontent, qui racontent leur quotidien, même si c'est fictionnalisé, quoi. Moi, c'est quelque chose qui ne m'attire pas, ni en tant qu'écrivain, ni en tant que lecteur. Donc moi, je suis attiré par ces lectures-là, donc c'est celles-ci que j'ai envie de... Voilà, je les broie, je les mastique, et je les rends au lecteur avec mon esprit à moi, et ça me sort toujours... Je remercie, moi, la littérature de ce qu'elle m'a apporté, parce qu'elle a fait de moi ce que je suis, et donc... L'acte d'écrire, forcément, de toute façon, un aller-retour avec les textes et les écrivains que j'ai aimés et que je. Voilà. Je parle beaucoup de spiritisme dans mes bouquins, et pour moi, l'écriture, même si je ne pratique pas en ce qui me concerne le spiritisme, il y a quelque chose à voir avec le spiritisme. Un écrivain est devant sa table, comme le médium est devant sa table ronde, et je fais venir à moi les auteurs, les univers littéraires que j'affectionne et que j'essaie de rendre dans le bouquin. Alors, ce n'est pas l'écriture automatique comme les médiums le pratiquent ou comme les surréalistes l'ont pratiqué, mais il y a quelque chose un peu comme ça, c'est-à-dire faire venir quelque chose. Conan Doyle imaginait, lui, et ça c'est quelque chose qui est lié à l'occultisme, que toute pensée, toute idée, à partir du moment où on est émise par un esprit, a son existence propre. Donc j'essaie de faire en sorte qu'effectivement, pour moi la littérature c'est ça, c'est tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été pensé très fort par les écrivains puissants qui leur ont donné une forme, continue à exister quelque part, et il suffit d'aller jouer avec ça.
Il y a Borges qui fait cette hypothèse audacieuse que tout homme qui dit un vers de Shakespeare est Shakespeare au moment où il le dit.
C'est fort joli. Par exemple, Stevenson aussi, lorsqu'il avait difficulté à trouver une suite ou une forme d'écriture, etc., il offrait des petits cadeaux aux brownies. Hein, ces petits brownies, il appelait ces petits brownies de la bibliothèque. Et il disait que le lendemain matin, lorsqu'il est arrivé, ces petits cadeaux avaient disparu. Et par contre, l'inspiration était là. Et effectivement, il lui soufflait alors tu as des petits brownies, tu as une manière. Parce que c'est que au fond, on a quelquefois des tics comme ça de mettre sur sa table de travail ou écouter certaines musiques, lire certains bouquins bien particuliers, pas uniquement par documentation, mais oui, tu vois ce que je veux dire. Tu as et même en t'entourer de certaines choses, d'images.
Moi, je vis dans un petit appartement. Hein, on est écrivain, on n'est pas riche. Donc, je travaille dans ma chambre. J'ai un plan de Londres au-dessus de ma tête. J'ai écrit un volume où il était question de ramener dans notre niveau de réalité des animaux perdus. Enfin, le thème de la cryptozoologie. Donc, j'ai des miniatures d'animaux préhistoriques partout dans ma chambre. Ma compagne n'en peut plus. Elle fait des cauchemars avec tous les trucs que je lui accroche. Voilà. Mais en tout cas, en même temps, j'ai besoin de ce... Je lis beaucoup. Je me perds même dans la documentation. Je laisse après des semaines et des semaines de maturation. Et tu citais Stevenson, c'est drôle, parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré au niveau théorie de l'écriture. Ses essais sur l'écriture, mais qui disait justement que lui, il écrivait avec des visions comme ça éparses sur ce qu'il voulait faire, et après il fallait aller d'une vision à l'autre. Et je me rends compte en fait au bout de quelques ouvrages que je suis assez proche de ça. C'est-à-dire, je sais que j'ai une image par exemple du chapitre final, j'ai une image d'une ou deux scènes, et voilà, à partir de ça, j'essaie de travailler pour aller d'une image à l'autre et de construire mon intrigue par rapport à ça.
Mais justement, tu parles d'images, Stevenson aussi parle des images, ne serait-ce que les images de son enfance, là, des nouvelles, qui ressemblent beaucoup à Erickson, là, par contre. Hein, il fait ce goût de cette littérature populaire. Toi aussi, tu as ce goût de cette littérature, parce que tu parlais de genre.
Moi, j'ai ce goût pour la littérature populaire. Enfin, même s'il y a des auteurs que nous avons en commun, moi, j'ai l'impression d'avoir été formé dans ce que je suis plus par la littérature populaire, celle qu'on lit quand on est adolescent. Moi, mon bouquin fondateur, c'est Un milieu sous les mers. Et j'ai beau tourner, virer, je m'aperçois tous les jours à quel point je ne continue qu'à tirer les fils du capitaine Nemo.
Mais il y a du Nemo
dans Un milieu sous les mers et de la littérature. Donc alors il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est quelque chose que je continue à pratiquer aussi. Des gens qui sont totalement oubliés, comme Sandeau. J'ai des collections de vieux journaux, de l'ouvrier, la famille, l'illustration, où je lis, et en éprouvant un réel plaisir, des romans feuilletons considérés aujourd'hui à bon droit comme de la sous-littérature, mais qui me procurent un réel plaisir, une réelle délectation littéraire, qui me servent aussi, alors que je... Comment dire ça ? De champs d'expérimentation. Je vois, là où c'est mal écrit, je vois, parce qu'elles sont grossières, les ficelles qui articulent ces longs textes. Ce sont souvent des textes qui font 1000 pages. Et donc, ça permet de voir, comme avec un effet de loupe, le tricotage fait par les grands anciens. Et donc, ça apporte énormément de choses aussi.
Et toi, tes auteurs, t'as lu lire ça qui...
Je pense que ça doit être compliqué de faire le catalogue Voilà, des véritables impressions, parce qu'il y a aussi celles que nous objectivons aujourd'hui, et celles qui sont réellement actives et qui nous échappent. Je pense qu'il y a un « je ne sais pas » à l'origine de ce qu'on écrit en général, et on se heurte à ça en permanence. Enfin, une sorte de noyau irrationnel. Pour ma part, par exemple, ce qui a provoqué l'écriture de la dernière nouvelle, qui est le temple d'eau, qui est une rêverie autour du bâtiment commis par Dominique Perrault sur le quai de Tolbiac, la Bibliothèque nationale de France, c'est la lecture en banque de salle, justement, au rez-de-jardin, d'un ouvrage du XVIIe siècle qu'on a conservé en libre accès, qui est Le Montfaucon, qui est l'Antiquité expliquée au... C'est un ouvrage extrêmement intéressant parce qu'il est parcouru de gravures qui nous montrent ce que le XVIIe siècle pensait de l'Antiquité. Et en le feuilletant, je suis tombé sur une image étonnante du mausolée d'Auguste, tel qu'il existait encore au XVIIe, donc avant bien des déprédations. C'est un bâtiment en forme de pyramide à terrasse qui comporte de minces bandes de terre où des arbres tentent désespérément de croître vers la lumière. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Donc le bâtiment de la bibliothèque François Mitterrand donc, contient des arbres qui, pareillement, sont très grêles, qui cherchent désespérément la lumière. On a dû les aubaner pour les tenir. Après la tempête de 99, ils ont été étêtés joyeusement. Et alors, la rêverie qui est venue à partir de cette lecture, c'était qu'est-ce qu'un citoyen romain perdu tout à coup sur l'esplanade par une belle journée d'été penserait de ce bâtiment? C'est-à-dire, à ses yeux, c'est quoi? Donc, j'ai essayé de faire glisser comme ça, un personnage qui se promène dans Lutèce, puis qui sort de Lutèce et qui se retrouve face à ça. Il devine bien qu'il se passe un problème, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas être là. Et les bibliothécaires qui le reçoivent avec tous les égards dus au lecteur, c'est-à-dire qu'ils vont le déshabiller, le laver, le passer dans des bains successifs. Et vous savez que la grande affaire actuellement qui occupe tout le monde du livre, on en parlait encore avec les éditions Ulma tout à l'heure, c'est la numérisation, c'est-à-dire la liquéfaction ou la virtualisation de toute la littérature qui tout à coup serait disponible en un clic. Et cette réflexion m'a amené à penser que pour l'instant, on est quand même à un niveau très banal de mise en ligne de textes qui existent sous forme de livres. On réinvente le fil à couper le beurre en mettant le livre sur un écran, ce qui est quand même pas... Voilà. Enfin, je veux dire, c'est très pratique, je n'en disconviens pas, c'est très pratique pour chercher une information qu'on sait déjà devoir chercher. Mais pour se retrouver par hasard devant l'essentiel, c'est pas formidable. Donc j'imaginais un stade ultérieur de la lecture, c'est d'être plongé dans le livre sous la forme d'un flacon qui est versé dans un bain où vous, lecteur, vous êtes invité à vous plonger. Et ainsi, l'œuvre vous est directement infusée pour votre malheur, d'ailleurs.
Alors j'ai eu un petit coup d'œil là, de notre ange gardien là, qui surveille. Si vous avez des questions donc à poser, parce qu'on va bientôt replier bagages.
Parlez-vous pas de votre propre livre?
Je ne vais pas m'interviewer, c'est ce que je veux dire. Enfin, c'est aujourd'hui. Non, pas de questions? Non. On fait un petit tour pour se faire plaisir, un petit tour en vitesse, on a le temps quand même un tout petit...
Pour se faire plaisir, on a toujours un peu de temps.
Bah ouais, c'est vrai. Comme c'est bien dit. Alors, faisons-nous plaisir. Oui, tout à l'heure, donc on a arrêté là, dans les auteurs fantastiques. C'est tes grands maîtres, c'est quoi qui...
Edgar Allan Poe, je dirais. Gérard Merval, même si c'est pas un auteur fantastique à part entière. Enfin, on est plus
dans qu'est-ce que c'est le fantastique? On peut toujours aller au fantastique.
Le fantastique, c'est peut-être plus un genre.
Oui, tu en as.
Il y a des théoriciens qui ont passé leur vie.
Caillois, déjà.
Je pense que l'esthétique de l'étrange, c'est quelque chose qui est plus. C'est une étiquette qui est plus perméable que le fantastique. On peut se Bach, des heures sur le fantasy. Nerva, effectivement, est un auteur de l'étrange. Il y a quelqu'un qui d'abord a eu des crises de folie, c'est-à-dire que lui, physiquement, il a vécu le passage de l'autre côté, et on est même mort, c'est-à-dire qu'on n'est jamais revenu de sa traversée du miroir. Donc des auteurs comme ça, Drouot, Nerval, je disais tout à l'heure Théophile Gautier, et puis toute la tradition anglo-saxonne, ce dont je parlais tout à l'heure, les détectives de l'étrange, c'est-à-dire avec Alan Blackwood, Arthur Macken, qui est un auteur qu'on lit plus trop aujourd'hui, mais qui a écrit des textes absolument fabuleux, et les personnages de détectives de l'étrange qui sont, à mon avis, les plus beaux qui aient été faits, c'est son personnage de Dobson et Phillips, qui sont publié, je ne sais pas trop comment.
Mais c'est de moins en moins publié, on ne les trouve presque plus, comme les gens raies d'ailleurs, on a un petit peu...
Comme les gens raies,
oui. C'est le fantastique, même l'étrange, chez nous, ça n'a jamais...
Chez les Belges,
oui, c'est vrai que nous, on est le seul pays à ne pas avoir de chair de mythologie, on va dire, c'est quand même grave. c'est vrai que la littérature des gens, enfin le fantastique, l'étrange... Chez nous, déjà la nouvelle, c'est pas très apprécié. Et en plus, pourtant, c'est pour la nouvelle, c'est en général, ça sied vraiment bien à l'étrange. Quoi. C'est vraiment la preuve, hein, c'est des petits bijoux, quoi, comme ça, les petits joyaux. Et toi, t'es grand maître, alors ?
Moi, j'ai pas de grand maître en littérature.
Parce que tu parlais de ton enfance,
fantastique, j'essayais de trouver ces points de bifurcation en précisant effectivement que entre ce qui agit consciemment et ce qui agit et ceux qui agissent inconsciemment, ben on n'en sait rien du tout. Peut-être que c'est cette littérature populaire dont je parlais et que je n'aime pas mais que je pratique ou consciemment, moi c'est Flaubert et Borges, mais mes maîtres et ceux dont je voudrais arriver un jour à la cheville, quoi, c'est tout. Après, il y a des tas d'auteurs que j'aime, et très honnêtement, je ne fais pas de différence, j'ai beaucoup de mal à faire cette différence entre des classifications. Je ne conseille jamais à un ami, ah, tiens, j'ai trouvé un auteur fantastique, oui, un auteur fantastique dans le sens génial, mais qui écrit en fantastique. Non, pour moi, où on est dans la littérature, où on n'y est pas. Et c'est ça l'étrangeté. Je ne crois pas qu'il y ait une... Même si on a des catégories, même s'il y a des chaires universitaires sur le fantastique, etc., c'est une partie de la littérature, et je crois que toute littérature réussie, elle manie l'étrange, elle manie le fantastique parce que elle se pose des questions fondamentales, et elle est tout le temps en train de manipuler le réel, d'essayer de traverser les miroirs, d'essayer de... Elle est dans une recomposition permanente du réel dans cet essai de compréhension. Et donc c'est ou littérature ou pas. La seule étrangeté, c'est peut-être de savoir pourquoi on se mêle d'écrire au lieu de vivre. Mmh. C'est ça qui est étrange.
Parce que Moby Dick est un roman fantastique, justement. Mmh. C'est vrai, il aurait peut-être du mal, justement, à se faire éditer, je crois, la vie aujourd'hui en allemand.
Ça, c'est sûr.
Ouais, mais en allemand, Moby Dick, c'est
quoi ? Moby Dick a été un flop.
Ah oui, c'est un flop, c'est qu'à le dire, un gros flop. elle souffle. Et toi, donc, parce que c'est assez curieux, parce que tu parles d'un détournement, un léger détournement, là, cette ruelle, et lui parle complètement, alors là, d'un passage de l'autre côté.
Oui, de plein pied, oui. Ouais, alors, il y a sans doute des gradations dans l'idée de fantastique. J'avoue que je me reconnais davantage dans, effectivement, Roald Dahl, pour ce qu'il a fait pour les adultes, qui skissent ces bizarres, sont pour moi de vrais chefs-d'œuvre, de nouvelles inquiétantes. Oui. Alors, c'est à découvrir, je ne connais pas. Je suis en train de perdre ce que je...
Je vois, c'est moi qui... On parlait de détournement et de gradation.
Oui, c'est ça. Voilà. J'avais envoyé trois des nouvelles du recueil à Serge Lehmann, qui est plus dans la science-fiction, hein, carrément. Et son avis m'avait beaucoup importé. Il m'avait dit cette chose intéressante de son point de vue, c'est qu'il disait « Vous vous arrêtez au moment où ça devient intéressant. » Et justement, Alors, c'est peut-être la question du critère, de la mesure. Le fantastique apparaît suivant ce qu'on établit au départ comme étant le réel, plus ou moins attirant, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc on le passe rapidement pour aller à autre chose. Si on prend la définition de David Lodge dans la littérature, il parle de littérature épiphanique pour ces passages où tout à coup le réel nous apparaît d'une manière tranchée, complète, pleine, la mesure est bien tassée, le truc est fort, il est plein. Là, on passe à la présence. Voilà. C'est ce qui m'intéresse davantage, j'ai envie de dire. Voilà. Mon esthétique est plutôt là. Si je cherchais un auteur avec Flaubert et Borges c'est vraiment celui qui m'habite clairement. Pascal, chose curieuse peut-être, mais Pascal, oui, pour ça. D'abord parce que je trouve étonnant le fait que la ville les broyait juste au moment où il terminait ce livre, et ne l'ayant pas terminé, c'est cet inachèvement qui nous intéresse aujourd'hui, oui. Et qui nous aspire. L'achèvement étant toujours un danger. Alors, je pense qu'on est tous d'accord, trop chialer un texte, aller jusqu'au bout, tout écrire, c'est la mort. Et Pascal aussi parce qu'il nous convoque dans ce que nous avons de plus profond, de plus vibrant, enfin, de plus inquiet.
Mais c'est vrai qu'il y a bien souvent l'attirance de laisser la phrase en suspens. C'est aussi un peu Gordon Pym, c'est la phrase d'Arthur Gordon Pym.
Oui, oui.
Je crois que le fait de s'arrêter en pleine histoire, ça donne envie...
Qu'est-ce qu'il y a comme ponctuation chez Edgar Poe?
Ah, c'est étonnant.
Ouais. L'exclamation en permanence, ouais. C'est très étonnant.
Et là, brusquement, cette fin ouverte avec ce visage pâle, page blanche aussi, c'est extraordinaire.
Ça n'est pas étrange ou peut-être pas fantastique, mais par exemple, je découvrais les nouvelles de Catherine Mansfield, qui sont incroyables, alors qu'elles ne touchent pas spécialement à des choses bizarres. Elle nous décrit simplement une jeune fille en train d'attendre un bus. Et c'est saisissant, quelque chose se passe qui est de l'ordre de la découverte. Oui,
Mais c'est assez curieux parce qu'il y a énormément d'auteurs anglais, de littérature non de genre, qui se sont tous essayés un jour ou l'autre, à l'étrange, au fantastique. Je crois, Thomas Hardy a écrit quelques
nouvelles. J'ai relu tout Raymond Carver pour le bouquin que je prépare et j'étais étonné de voir que... Il avait écrit du fantastique et que dans ses propres écrits intimes, il aurait aimé être un auteur de littérature fantastique. C'était le genre qu'il aimerait pouvoir maîtriser. Alors, ses nouvelles ne sont pas extraordinaires. On comprend qu'il n'est pas poursuivi dans le truc par rapport à la qualité de ses romans policiers. Mais en tout cas, très bizarrement, il y avait cette envie de s'essayer au fantastique et ce fantasme de littérature fantastique comme un genre noble. Les anglo-saxons, par rapport à ça... C'est très différent de nous, hein. En France, c'est très compliqué. Hein.
Ah ouais.
Souvent, le rapport au lecteur, quand on voit qu'on peut aller sur des plates-bandes qui sortent de l'ordinaire, il y a toujours un petit peu de réticence. Ah, vous faites du fantastique, de l'étrange.
Ah ouais.
Vous savez, j'aime bien quand c'est bien comme ça.
Ah ouais, c'est ça.
Écoutez,
Ça me fait penser à Henry James.
Oui.
Et au héros.
Absolument.
Probablement un des meilleurs textes qu'on pourrait considérer comme fantastique et qui n'est pourtant
un délire
de la littérature, et surtout de la littérature.
Bon, on va en arrêter justement sur le tour des crocs, là, refermé, puisque là, on va s'imbronder. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Bon appétit, amusez-vous bien, quand vous aurez le grand lapin vous protège.